Place maintenant au médiateur de Radio France. Bonjour Bruno Donnas.
Bonjour Olivia Ferrandi, bonjour à tous.
Bruno, aujourd'hui vous nous parlez des coulisses du grand reportage sur France Info avec nos envoyés spéciaux aux Antilles françaises et le travail qu'ils ont réalisé sur le passage des ouragans Irma, José et Maria. Parmi eux, Mathieu Mondoloni qui vient de passer 2 semaines au milieu des sinistrés.
Mathieu Mondoloni, bonjour.
Bonjour Bruno.
Alors, en effet, avec bienveillance et curiosité, beaucoup d'auditeurs se demandent quelles sont les conditions de travail des reporters au milieu d'un tel désastre. Alors, d'abord, comment avez-vous pu vous rendre sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ?
Alors, ça a été assez compliqué.
Il n'y avait pas d'avion.
Alors, il n'y avait pas d'avion au début. On a failli prendre un bateau, mais les bateaux, évidemment, étaient en priorité réservés aux secours. Donc, finalement, on est parti en avion le vendredi matin. Voilà, c'est-à-dire 2 jours après le passage d'Irma, on a atterri à l'aérogare de Grand Case, donc la seule piste qui était accessible, praticable en avion, puisque l'aéroport international de Saint-Martin, côté hollandais, Juliana, était encore fermé. Et on a atterri là-bas voilà, en montant dans un avion avec des secours, avec du matériel de secours et en se glissant dans cet avion avec Yann Gallic de France Inter et Arthur Gerbault, le technicien de reportage.
Alors quand vous arrivez, vous êtes confronté à une population en plein traumatisme, évidemment. Comment parvient-on à recueillir des témoignages ?
Alors assez bizarrement, en fait, c'est très facile parce que les gens avaient besoin de parler.
Voilà,
ils étaient vraiment entre eux pendant le passage d'Irma. Ils ont cru très sincèrement qu'ils allaient mourir, qu'ils allaient y rester. Et donc, quand ils ont vu des gens arriver, que ce soit les secours et les journalistes, dès qu'ils nous voyaient, ils venaient nous parler spontanément. On sortait le micro, on commençait à faire une interview. Rapidement, il y avait 2, 3, 4 personnes qui venaient autour et qui disaient « Ah mais moi aussi, je vais vous raconter ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, ce que j'ai perdu, ma maison, mon toit, comment j'ai eu peur pour mes enfants. » Donc c'était assez facile, je veux dire, c'est comme une espèce de thérapie pour eux. Ils ont besoin de parler parce qu'ils sont encore traumatisés, notamment dès les jours qui ont suivi. Et après, au fur et à mesure, ça a évolué. Donc les réactions n'étaient plus les mêmes. Il y avait toujours ce besoin de parole, mais on avait plus d'émotion au fur et à mesure des jours qui passaient. C'est-à-dire, il y avait d'abord l'état de sidération, avec une volonté de s'en sortir, d'être évacué, de mettre à l'abri les familles. Et puis après, petit à petit, il y avait des gens qui craquaient, tout simplement, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qu'ils avaient enfouies et qui ressortaient tout d'un coup.
Quelques auditeurs, peu nombreux, il faut bien le dire, mais comme Adélaïde, se sont dit étonnés et choqués de n'entendre quasiment que des interviews de compatriotes blancs. Toutes les paroles et les témoignages se valent, ajoute-t-elle.
Il faudra m'expliquer comment en radio on peut distinguer un blanc d'un noir. Après, honnêtement, ce n'est pas le cas de mes reportages et de ceux qui ont été effectués par les collègues de Radio France. La parole, on l'a donnée à tout le monde, évidemment, encore une fois. Et puis moi, je ne vois pas des blancs et des noirs quand je vais en reportage. Je vois des gens. Donc il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des métis, il y avait des asiatiques. Voilà, il y avait des habitants de Saint-Martin, des Saint-Martinois, tout simplement. Et on leur a donné à tous la parole. Et puis notamment sur un des derniers reportages, si y a cette allusion-là, moi, je parlerais plus de classe modeste, de quartiers populaires par rapport à des quartiers plus favorisés. Et là, c'est pareil, on a fait le travail des deux côtés. On est allé voir les quartiers les plus défavorisés, notamment Sandy Ground, qui est cette langue de terre perdue entre le lagon et la mer, et où on est allé voir les populations où il y a beaucoup d'Haïtiens, de Jamaïcains, des sans-papiers, des immigrés, etc.
D'autres auditeurs ont reproché de ne pas avoir beaucoup entendu parler des pillages et du peu de présence policière.
On en a parlé aussi, effectivement, dès le début quand on est arrivé, puisque les pillages étaient encore en cours. Je l'ai rapporté dans plusieurs directs que j'ai fait, notamment parce qu'on était au milieu, dans un quartier, au bout de 2 jours, le quartier de Bellevue à Saint-Martin, où il y avait des pillages. Alors quand je dis pillage, il ne faut pas imaginer des bandes organisées qui viennent avec des pick-up, avec des armes, avec des masques, et qui viennent braquer les gens. Ce n'était pas ça. C'est pour beaucoup des pillages de biens de première nécessité, des gens qui voulaient
pour survivre aussi.
Exactement, trouver de l'eau, trouver de la nourriture. Et après, oui, il y a eu des pillages. Moi, je me suis rendu avec les pillards, entre guillemets. Quand je les ai vus, je me suis dit, je vais aller avec eux pour voir ce qu'ils prennent dans les magasins. Donc oui, il y avait des gens qui allaient piller des magasins de bricolage qui sortaient avec des perceuses ou des chaises de jardin. Mais parce que tout était dévasté. Et puis qu'au fur et à mesure, c'était des gens, j'allais dire, comme vous et moi, Bruno. C'est-à-dire qu'ils voyaient un magasin dévasté, ils voyaient des gens y aller et sortir des choses. Et ils se disaient, bah, moi aussi, je vais y aller, je vais prendre des choses, tout simplement.
Alors que tout est par terre, comment parvenez-vous à vous déplacer? C'est aussi des questions qu'on a pu avoir et à communiquer avec France Info.
Alors c'était très compliqué. Communiquer avec France Info, c'était plus facile parce qu'on avait une valise satellite. Donc dès qu'on arrivait à trouver, on pouvait envoyer nos sujets parce qu'effectivement, il n'y avait pas de téléphone, pas d'internet. Pour se déplacer, ça a été compliqué les premiers jours. Il y a du stop, il y a énormément d'entraide. Donc dès qu'on levait le pouce, en fait, on se faisait prendre en stop et on pouvait être envoyé quelque part. Ouais, exactement. Et puis au bout d'un moment, on a réussi à trouver quelqu'un qui nous a loué une voiture pour une somme très modique pour nous permettre de nous déplacer plus facilement sur l'île et d'être totalement indépendant.
Et des auditeurs d'ailleurs s'inquiétaient, ils sont plutôt sympas, de savoir comment vous trouviez de la nourriture et de quoi vous hébergez.
Alors les secours nous avaient prévenu, les autorités nous avaient dit, si vous allez là-bas, vous êtes autonome. Donc il n'est pas question de prendre la nourriture et l'eau qui est réservée aux sinistrés, et c'était évident pour nous. Donc on a fait des courses à Pointe-à-Pitre. Alors, quand je dis des courses, deux petits sacs avec des boîtes de thon, de sardines, du pain de mie et, et du fromage pas très bon, pour ne pas citer de marque. Et on s'est débrouillé avec ça, et surtout de l'eau, parce qu'on savait qu'on allait pouvoir tenir sans forcément beaucoup manger, ce qui a été le cas, on faisait un petit repas par jour. Par contre, il fallait qu'on ait de l'eau. Donc on a débarqué avec 5 packs d'eau pour 3, ce qui nous a permis de tenir une bonne semaine sans avoir besoin de demander à qui que ce soit de la nourriture. Et après, rapidement, avec les secours qui ont pu amener des vivres et de l'eau à la population, les militaires nous ont donné des rations militaires comme ils le donnaient à des gens. Et puis même les habitants, chez qui, au bout d'un moment, on a été logés, nous ont aussi donné de la nourriture, des petits bouts de viande, parce qu'il y a un boucher qui avait son frigo qui était tombé en panne comme il n'y avait plus d'électricité. Donc il avait distribué ça à tous les gens du quartier. Donc tous les soirs, c'était barbecue, rationné, mais c'était barbecue.
Et pour dormir ?
Et pour dormir, même le sol, pour commencer, sortant de l'aérogare, oui, parce qu'on n'avait pas de moyen de quitter l'aérogare au début, pas de voiture, pas de véhicule, on avait nos sacs, notre matériel, donc on dormait par terre. Voilà, on dormait par terre pendant plusieurs jours, après on a dormi par terre chez l'habitant, chez qui on a passé une nuit dans le quartier de Bellevue dont je parlais tout à l'heure. Et puis après, la générosité, la solidarité des Saint-Martinois a fait qu'on a réussi à trouver un petit studio dans une résidence qui était en partie désertée parce que des gens cherchaient à partir ou étaient partis. Et là, on a eu un matelas. Donc là, c'était...
Ça fait du bien.
Ça fait du bien.
Ouais. Enfin, beaucoup moins bienveillant, à la limite de la bêtise humaine, les réseaux sociaux ont déclenché une polémique sur une superbe photo que vous avez publiée sur Twitter et Facebook, celle d'un jeune soldat qui tient dans ses bras une petite fille épuisée avant d'être évacuée en avion avec ses parents. Photo colonialiste, photo de com gouvernementale, et je passe sur les commentaires encore plus grossiers. Alors ces commentaires stupides vous ont beaucoup affecté, Mathieu ?
Ça m'a affecté les premiers jours quand je les ai découverts, avec le décalage horaire où j'arrivais à trouver de l'internet à ce moment-là et où j'ai vu un nombre de notifications assez hallucinant. Et puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, c'était une photo comme une autre. J'en mets plein sur mon compte Twitter quand je pars en reportage, j'essaie d'en faire. Voilà, des instants de vie, comme j'ai appelé ce cliché-là. Donc oui, ça m'a un petit peu affecté. Après, j'ai pris de la distance parce que c'était vraiment très loin de ce que les gens vivaient là-bas, tout simplement. Et puis encore une fois, je redis ce que j'ai dit avant. Moi, je vois pas un militaire blanc avec une jeune fille noire. Moi, je vois un militaire avec une jeune fille, et j'ai vu des militaires noirs aider des enfants blancs et des gens, enfin voilà, je trouve ce débat complètement hallucinant. En fait, c'est pas du tout, c'est un militaire avec un enfant, une petite fille tout simplement, qui est venu l'aider. Point barre.
Rappelons que les réseaux sociaux génèrent en effet beaucoup d'adeptes de l'insulte, du complotisme et de la polémique maladive. Merci Mathieu Mondoloni, reporter à la rédaction de France Info.
Une adresse pour vous écrire, vous interpeller, Bruno, médiateur.radiofrance.fr, et on vous suit toujours sur vos comptes Facebook et Twitter.